D'ordinaire, ces lettres blanches, ornées de bleu la nuit, se voient de loin. C'est en tout cas ce que j'ai imaginé en cherchant des photos du Crocus City Hall sur Internet. J'ai aussi cliqué sur le lien qui m'a emmené sur la page de cette immense salle de concert et de spectacle de la banlieue nord-ouest de Moscou. Il y est écrit en gros caractères « Nous pleurons ». En dessous, une date, 22/03/2024. Et une série d'informations pour toutes les personnes touchées par l'attaque. C'était un vendredi, avant le début d'un concert du groupe de rock Picnic. Des hommes armés pénètrent dans le complexe et tirent, deux explosions suivent. On parle aujourd'hui d'au moins 144 morts et 360 blessés. Et puis avant même toute revendication, l'interrogation. Qui a agi? Qui est le commanditaire? Les unités spéciales de la garde nationale sont à pied d'œuvre. Le président russe, Vladimir Poutine, ne prendra la parole que 17 heures après les faits et confirme l'arrestation de 11 personnes, dont 4 assaillants.
Le chef de l'État russe a d'abord commencé par remercier tous les intervenants sur les lieux, singulièrement les secouristes, puis par dire aussi que tous les auteurs avaient été retrouvés, que les forces de sécurité avaient aussi retrouvé des complices, ont cherché d'autres et qu'ils seront punis, leurs commanditaires également. Sans mentionner aucun passeport tadjik pour les auteurs, Vladimir Poutine accuse déjà l'Ukraine, reprenant officiellement tous les mots de ses services de sécurité qui parlaient de coupables en fuite sur l'autoroute en direction des zones frontalières puis dans la forêt. Ces hommes auraient donc, selon le pouvoir russe, pris la fuite vers une zone militarisée dont une grande partie s'apparente à une ligne de front. Pas un mot non plus sur la revendication de l'EI. Elle n'existe pas d'ailleurs dans l'espace informationnel russe.
Pas un mot jusqu'à la vidéo de l'État islamique qui en Russie circule dans la nuit du samedi au dimanche. C'est Anissa El-Jabri, la correspondante de RFI, qui depuis la veille raconte sur l'antenne de notre radio. C'est elle aussi qui racontera quelques heures plus tard l'arrivée de ces 4 suspects au tribunal. C'est de ces hommes, ou plutôt des images de ces hommes, les visages tuméfiés et des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux dont il est aussi question dans cet épisode que j'enregistre avec Anissa le 3 avril. Bonjour Anissa.
Bonjour.
Nous sommes donc 13 jours après cette attaque. Alors on sait que le choc, il a été grand. Aujourd'hui, quel est l'état d'esprit des moscovites? Est-ce que cet attentat, il fait toujours la une des médias?
Alors, on a quasiment presque deux univers différents, je dirais, parce que quand on discute avec les moscovites, on le voit bien, on est sur une onde de choc qui n'est pas du tout absorbée, sur énormément de chagrin. On a des gens qui viennent nous dire au fur et à mesure, quand on les croise, qu'ils apprennent qu'ils ont des connaissances qui sont décédées à l'intérieur du Crocus. En fait, c'est par cercle. On cherche d'abord à savoir si on y avait des proches, et puis ensuite, en retournant au travail ou en échangeant avec des amis, on apprend que quelqu'un qu'on connaissait y était, qu'un couple est mort, mais que leur enfant s'est échappé. En tout cas, ça devient de plus en plus concret. On le voit aussi de manière très claire dans les rues, beaucoup plus de déploiement de forces de services de sécurité. Et en plus, ils sont aussi très armés, ils ont aussi des cagoules. Ça, c'était quelque chose qu'on avait pas vu avant. Et on voit aussi d'autres choses, à des tas de signes sur la peine et sur la tristesse. On sait par exemple que plus de 100 000 moscovites à ce stade ont rendu tous les billets de concert qu'ils avaient réservés. Ça signe une grande inquiétude sur les rassemblements, évidemment. Ce qu'on sait aussi, c'est que les consultations auprès de psychologues ont explosé. Elles ont explosé pour des questions d'anxiété immédiate, notamment, et d'attaques de panique.
Tout ce que tu me racontes là, Anissa, est-ce que on le voit? Est-ce que c'est reflété dans les médias d'État?
Ben ça, c'est un vrai sujet. Figure-toi, Alexandra, que c'est une première, en fait. Ce qu'on voit à la télévision, c'est relativement différent, voire très différent selon les cas. On parle de cet attentat et de ses suites dans la presse, à la télévision. Mais on en parle d'une manière extrêmement spécifique. On n'a rien vu sur les enterrements, par exemple. Ils ont commencé dès la semaine dernière. Il n'y a que la presse locale qui les a relatés. On ne voit pas de familles en pleurs. On ne voit pas de récits, par exemple, comme on a pu le voir sur la tragédie de Beslan. En fait, je cite Beslan il y a 20 ans parce que c'est la référence en termes de choc pour les Russes aujourd'hui, même si ce qui s'est passé il y a 20 ans est extrêmement différent de ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que on avait eu 3 jours de prise d'otage dans une école à la rentrée scolaire, et on était avec une question politique interne, puisqu'on avait un commando tchétchène qui avait posé des revendications. Ça s'était soldé par la mort et du commando tchétchène et d'une grande partie des otages. Ça n'a effectivement rien à voir avec ce qui s'est passé il y a 20 ans avec l'EI, mais pour autant, ça reste pour les Russes la référence en termes de choc, en termes d'émotion et en termes de processus de deuil. Dans toutes ces affaires, c'est le cas aussi pour d'autres types de catastrophes, une catastrophe ferroviaire, on voit à la télévision, et on a vu à la télévision, les familles de victimes, on a vu des familles en deuil, on a vu des choses comme ça s'exprimer, et on a eu de l'accompagnement en termes de reportage pour les familles, par exemple. Aujourd'hui, ça fait quasiment une semaine que les premiers enterrements ont commencé, il n'y a pas d'image de ça à la télévision. Et c'est la presse locale qui peut rapporter que un couple qui était avec son enfant, par exemple, au concert, a vu son enfant adolescent pouvoir s'échapper, mais qui se retrouve aujourd'hui orphelin et qui enterre ses parents. Ces images-là, elles n'existent pas. Ce qu'on voit aujourd'hui à la télévision russe, et c'est une vraie première, c'est une célébration de la résilience et du courage. On parle beaucoup de cet adolescent qui était par exemple préposé au vestiaire, qui a sauvé une centaine de personnes en trouvant la bonne sortie de secours. On voit apparaître des blessés à la télévision russe, mais ce ne sont jamais des blessés sur un lit d'hôpital. Ce sont toujours des blessés qui sont sortis et qui racontent comment ils ont surmonté leurs blessures, surmonté la catastrophe. On a beaucoup d'histoires héroïques. C'est extrêmement marquant parce que c'est en quelque sorte une célébration d'une forme de sursaut. On sent que la télévision cherche à montrer des choses positives, cherche à montrer de la force. Elle cherche aussi à créer de l'unité et de la cohésion. Pour autant, c'est extrêmement flagrant, cette dissonance entre ce qu'on peut entendre de l'état d'esprit de la population et ce qui lui est montré.
Et l'enquête, on en parle ou pas ? On en est où d'ailleurs ?
Alors, on parle de ce que nous présentent les autorités russes, Alexandra, et c'est bien évident qu'on n'est pas dans un pays où on peut avoir un procureur qui vient tous les jours répondre à des questions d'une presse qui, elle-même, pourrait avoir ses propres sources et exposer ses propres éléments. Donc, on a la version du pouvoir, c'est celle qui explique qu'il y a des exécutants qui étaient ce commando de l'EI et qu'il y a des commanditaires, l'Ouest et l'Occident. Donc, c'est ce qui est martelé à la télévision tous les jours, et c'est même ce qui fait davantage la une que cette question de résilience présentée des victimes. On nous explique, comme on explique d'ailleurs depuis le début de la guerre en Ukraine, que c'est l'Occident qui est derrière tout ça. Un des éléments qui est intéressant, c'est qu'on n'a toujours pas de présentation de preuves matérielles. On a des suspects qui sont régulièrement présentés comme étant des responsables de la logistique, des responsables de l'accompagnement. On a ces fameux assaillants présumés qui ont été écroués, mais aucun élément matériel.
Tu parles de ces assaillants qui ont été présentés au tribunal, puis écroués. Ces 4 suspects, c'est ça, qui sont, pour certains, originaires du Tadjikistan ?
Voilà, sachant que c'est aussi très compliqué pour les pays d'Asie centrale et singulièrement pour le Tadjikistan, parce que ils ont sur le sol russe une communauté qui peut parfois déjà être extrêmement stigmatisée et qu'elle l'a été d'autant plus depuis les événements. Et le président du Tadjikistan d'ailleurs est très vite monté au créneau durant le week-end de l'attentat en disant « les terroristes n'ont pas de passeport ».
Ce sont eux, en tout cas, Anissa, qui ont été vraiment montrés dans les médias quand ils ont été conduits devant le tribunal de Moscou. C'est là qu'on a vu leur visage tuméfié. Il y en avait un qui avait un coquard à l'œil droit, l'autre une oreille totalement bandée. Il y en avait un qui était sur une espèce de chaise civière, difficile de faire la différence. C'est comme ça aussi qu'ils sont apparus dans les médias russes.
Oui, en fait, on a eu deux temps dans cette exposition-là de ces suspects. On a eu un premier temps où on a vu circuler sur ce que moi j'appelle l'espace semi-informationnel russe, c'est-à-dire les chaînes Telegram qui sont réputées proches des services de sécurité. On a vu apparaître leur visage, et on a vu apparaître des vidéos présentées comme étant des vidéos, un, de la chasse à l'homme, deux, de leurs arrestations, et ensuite de ce qui s'est passé après. On a donc vu apparaître samedi un des assaillants se faire couper l'oreille. C'est très précis parce qu'on voit aussi le couteau et quelqu'un hors champ lui intimant de manger cette oreille. Et on a vu le dimanche apparaître des images d'un second suspect au sol, torturé à l'électricité, avec très précisément des images de fils électriques sur son appareil génital. Ces chaînes Telegram, elles sont extrêmement suivies pour certaines. Certaines ont 2 millions d'abonnés. Pour te dire à quel point ces images ont été regardées, c'est que ce fameux couteau qui a servi à couper l'oreille d'un des assaillants présumés, il est devenu l'incarnation d'une forme de vengeance pour une partie de la population. Et donc, dans les quelques jours qui ont suivi, ce couteau, énormément de gens l'ont acheté, au point que l'usine qui produit ces couteaux a dû faire un communiqué de presse expliquant qu'elle était en rupture de stock, mais qu'elle allait en relancer la fabrication.
Ça, c'est nouveau, Anissa, de voir ces vidéos circuler en Russie, parce qu'en fait, de tout ce que tu racontes, ça fait aucun doute que ces hommes, ils ont été torturés.
Ça ne fait aucun doute. En réalité, tout le monde sait en Russie pour les mauvais traitements dans les prisons. Il y a même eu, quand je suis arrivée ici comme correspondante en Russie, je crois que c'était à l'automne 2021, un scandale qui avait éclaté et de manière suffisamment forte pour que les autorités disent qu'elles allaient prendre des mesures sur les mauvais traitements dans les prisons. Tout le monde sait, et c'est par ailleurs extrêmement documenté par les ONG. En revanche, c'est la première fois qu'on voit apparaître de manière assumée ces images, parce qu'il y a en effet ces deux temps, ce temps d'apparition sur ces chaînes Telegram, mais qui est un espace qui n'est pas encore tout à fait officiel, même si on voit bien qui a pu poster ces vidéos, les rendre disponibles, et ce second temps où ces suspects présumés sont exposés au tribunal Basmani à Moscou. Ils sont exposés parce que les autorités russes auraient très bien pu communiquer sur leur arrestation, elles auraient très bien pu ne pas rendre public ces audiences de mise en détention. Quand il s'agit de terrorisme, les pouvoirs des autorités sont évidemment très étendus en la matière. Toute la presse a pu se rendre dans la nuit du dimanche au lundi à ces audiences de mise en détention, les médias officiels russes, les médias officiels étrangers. Il y a eu un choix délibéré de laisser ces images de prisonniers très visiblement violentés dans l'espace public.
Bon, je comprends bien qu'évidemment tout le monde a eu accès à ces vidéos, hein, dans ce que tu racontes, ces vidéos, en tout cas sur les chaînes Telegram, toi tu les as vus aussi. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Est-ce que tout de suite tu t'interroges, j'imagine que oui, sur la façon dont tu vas relater tout ça à l'antenne?
Oui et non, parce qu'en réalité, il faut le relater. C'est un fait. Comme je te disais, c'est une première. Ça relève d'un choix délibéré. D'après ce qu'on peut comprendre, c'est que ce choix a été fait pour à la fois canaliser une grande colère dans la population, et il semble, d'après ce qu'on peut lire dans la presse qui a des sources auprès des forces de sécurité, l'idée se voulait aussi d'être dissuasif auprès de toute personne qui serait tentée de commettre à nouveau de tels actes. Donc c'est délibéré, donc c'est un choix, donc il faut le relater. Après, évidemment, cette question, elle se fait avec des choix dans l'expression. On n'oublie jamais que quand on relate ce type de fait, eh bien, il faut pouvoir expliquer qu'on va décrire quelque chose d'extrêmement violent avant de pouvoir en relater la brutalité.
L'impact de ces images, toi, tu arrives à le mesurer. Je sais, hein, on en a déjà discuté ensemble dans Témoins d'Actu, que demander aux moscovites de s'exprimer sur ce qui relève de la politique ou du pouvoir, c'est pas évident. Comment, toi, tu ressens les choses dans les conversations?
En fait, ce dont on me parle le plus spontanément, c'est une des vidéos d'un des membres de l'équipe présumée qui a été faite assez vite le samedi, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et dans cette vidéo, cet homme, qui apparaît comme ayant déjà été brutalisé, dit avoir participé à cette entreprise terroriste pour une somme très élevée. Et les moscovites me disent, comment peut-on faire ça pour de l'argent? C'est un moment, c'est assez fort parce que la télévision avait perdu beaucoup d'audience ces derniers temps. La télévision officielle, ça reste un média extrêmement prescripteur en Russie, mais elle avait perdu beaucoup d'audience. Donc dans un moment d'émotion comme celui-ci, en réalité, tout le monde s'est remis devant les télés. S'est remis à aussi quand même consulter les chaînes Telegram. Donc dans un moment de choc, de panique, évidemment, toutes ces images, elles impriment énormément.
Et le fait que le pouvoir ne commente pas ces vidéos, on sait que le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, il a été interrogé par les journalistes sur des allégations de torture et il a répondu « Je laisserai cette question sans réponse ». Il faut comprendre quoi de ce message ?
À peu près rien, Alexandra, à part qu'il ne les a pas condamnés, c'est important. Ces images, elles apparaissent de moins en moins, mais elles apparaissent sur les médias russes. On imagine bien qu'à la télévision d'État russe, sur un dossier aussi important, en cours d'instruction pour terrorisme, ces images n'apparaissent pas sans approbation. De la même manière, la patronne de Russia Today, Margarita Simonian, a fait une vidéo il y a 2 jours, si je ne m'abuse, expliquant qu'elle, elle espérait bien que la personne qui avait coupé l'oreille d'un des suspects ne serait pas inquiétée, qu'à ses yeux, c'était pas un problème, que ce qui était grave à ses yeux, c'était tous ces Russes qui avaient souffert de cette attaque, tous ces Russes qui étaient en deuil, en choc et en panique, et que ceux qui avaient quelque chose à dire, je la cite, n'avaient qu'à aller vivre en Norvège.
Anissa, des propos comme ça, ça fait l'unanimité ?
Je peux te parler de ce que j'entends, Alexandra, de ce que j'entends dans les rues, dans les restaurants, dans mes échanges avec les Russes, de ce que j'ai entendu plus spécifiquement quand je me suis rendue au mémorial près du Crocus et puis dans ces longues files d'attente devant les hôpitaux pour donner son sang pour les blessés. Moi, j'ai surtout beaucoup entendu des moscovites qui refusaient de prendre position sur ce qu'ils pouvaient entendre à la télévision, sur la responsabilité des uns et des autres, et en l'occurrence des Occidentaux. Dans tout l'Ukraine, j'ai beaucoup entendu des gens qui, eux, voulaient de l'espace pour encaisser leur choc, voulaient de l'espace pour leur peine, pour pouvoir pleurer. Maintenant, la diffusion de la violence dans la société, c'est un vrai sujet depuis le début de cette guerre. Je ne sais pas si tu te souviens de cet épisode l'hiver dernier, au mois de février 2023, très exactement, quand Wagner avait rendu publique cette vidéo qui était présentée comme la punition d'un traître. Donc, c'était un de leurs mercenaires qui étaient passés côté ukrainien. Cet homme avait été tué à coups de marteau. Ce marteau était devenu l'emblème de Wagner au point qu'on avait trouvé des t-shirts vendant ces marteaux. Et aujourd'hui, dans la presse indépendante, je vois fleurir beaucoup d'articles titrés « Du marteau au couteau » et expliquant qu'on est dans une brutalisation de la société ou en tout cas d'une diffusion de la violence qui devient de plus en plus présente. Elle choque ou bien elle suscite de l'adhésion, mais en tout cas, elle est de plus en plus forte et de plus en plus présente.
Merci beaucoup, Anissa, d'avoir pris le temps de passer de nouveau dans Témoins d'actu.
Merci, Alexandra.
Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas, s'il vous a plu, à le partager. Il est disponible sur toutes les plateformes de podcast et sur l'appli Pure Radio de RFI. À très vite.